France Culture. France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Une rencontre ce soir, comment faire une histoire du monde qui parviendrait à mettre sur le même plan l'histoire biologique de la planète et l'histoire des êtres humains. C'est la mission fantastique que se donne la Big History, la grande histoire en bon français, une discipline qui a émergé dans les années 90 et dont notre invité a été l'un des plus importants penseurs. Son récit des origines de notre monde vient de paraître en français et nous permet de replacer notre époque, l'Anthropocène, dans une histoire bien plus large, bien plus profonde. Alors, quels sont les fondements théoriques de cette discipline? Quelles en sont aussi les limites? Bienvenue, David Christian.
Good evening.
Vous êtes historien, ancien professeur à l'université Macquarie de Sydney. Votre livre vient de paraître, il s'intitule « Origine, une histoire du monde du Big Bang à nos jours » et il vient de paraître aux éditions ARPA. Merci à vous d'être avec nous. Merci également à Robert Wolfenstein pour l'interprétation de cet échange.
Au début, j'ai eu l'impression que je connaissais déjà beaucoup de choses. Je connaissais un peu la biologie, un peu la physique, un peu la façon dont les civilisations ont eu des rôles plus spécialisés et dont les populations ont augmenté au fil du temps. Mais je n'avais jamais eu une vue d'ensemble. Le rappel sur les éléments, le soleil, les planètes, les débuts de la vie et la façon dont elle s'est déroulée pendant si longtemps en tant qu'espèce unicellulaire. Puis il y a eu cette explosion de l'apparition des êtres pluricellulaires comme les animaux. Puis l'avènement de la civilisation et son développement, l'agriculture, les rôles spécialisés. Si vous reliez tous ces éléments les uns avec les autres, tout se met en place. Cela donne un sens à l'ensemble. Et donc je me suis senti mal de ne pas avoir étudié ces choses quand j'étais jeune. Je pense que j'aurais alors compris beaucoup de choses et que j'aurais pu agréger toutes ces connaissances. Je n'en étais pas du tout capable à l'époque. J'ai donc suivi ce cours avec enthousiasme et dont tout le monde devrait pouvoir en bénéficier.
Il s'agissait, David Christian, de la voix de Bill Gates, hein, fasciné lui-même par la grande histoire, par la Big History. Hein, vous avez forgé, inventé ce concept, ce terme. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, David Christian, le succès phénoménal de la Big History, de la grande histoire?
Alors, le succès n'est pas tout à fait à la hauteur de mes attentes, en tout cas dans le monde anglo-saxon. La raison en est que cette discipline est très transversale, elle est très interdisciplinaire, et nous vivons dans un monde où le savoir est divisé en silos. Et donc, la grande histoire essaye de raconter pas simplement l'histoire d'un seul pays ou d'une seule région, la grande histoire essaye de raconter l'histoire de tout le passé, de tout l'univers. Donc on touche à la cosmologie, à l'astronomie, à la géologie, à la biologie, mais également l'anthropologie et bien sûr l'histoire humaine. Donc c'est une discipline transdisciplinaire. Alors, on l'enseigne dans un certain nombre d'établissements, mais je dois reconnaître que pour ma part, je suis enchanté de voir qu'ici, cette discipline soit connue également en français.
Je vous cite, David Christian, je cite un extrait de votre dernier ouvrage qui vient de paraître, je le disais, en français aux éditions ARPA. Vous écrivez, devenu historien professionnel, je me suis demandé comment enseigner une histoire unifiée de l'humanité. Pouvais-je enseigner l'héritage commun à tous les humains et raconter cette histoire en y mettant une touche de la grandeur et de l'émerveillement des grandes histoires nationales? Il y a quelque chose dans cette citation, David Christian, qui m'interpelle. Là, le premier point, c'est que vous avez l'ambition de dessiner une histoire unifiée du monde et de l'humanité. Racontez-nous de quoi il s'agit.
Une histoire unifiée du monde. L'idée, en fait, est toute simple. Il s'agit, enfin, dans toutes les sociétés que nous connaissons, vous trouverez que on a toujours enseigné les origines des choses. Dans la tradition chrétienne, par exemple, les histoires bibliques nous racontent la création de l'univers, l'apparition des êtres humains, des animaux, etc. Mais ce qui est quand même assez curieux par rapport à l'enseignement moderne, c'est que nous disposons de tellement d'informations et pourtant, nous n'enseignons pas une histoire moderne des origines. Donc, quand je parle de la grande histoire, c'est revenir aux histoires traditionnelles des origines, mais en s'appuyant sur tout le savoir de la science moderne, de la science contemporaine. Et c'est le type de projet qui ont intéressé les penseurs du siècle des Lumières. Ils essayaient de donner une représentation complète, une connaissance complète de notre place dans l'univers en s'appuyant sur le savoir contemporain. C'est ce qu'on essaie de faire avec la grande histoire.
Ce qui est fascinant aussi dans la grande histoire, c'est la place qui est laissée à la science, aux sciences de la nature. Vous faites une histoire du monde qui débute, David Christian, au Big Bang. Pourquoi remonter, j'allais dire, au tout début, à cet embryon d'existence, à cet embryon même du monde, pour comprendre qui l'on est, nous, en tant qu'être humain? Pourquoi remonter si loin?
Why not?
Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vais vous le dire. Pourquoi étudions-nous l'histoire? Nous l'étudions parce que, en tout cas, à mon sens, la plupart d'entre nous pensons que pour comprendre le présent, il faut quand même connaître quelque chose du passé. Alors, si tel est bien le cas, alors, nécessairement, il y a un moment où il faut quand même étudier toute l'histoire du passé, pas simplement l'histoire de telle nation, de telle espèce. Toutes les histoires des origines essaient de nous placer dans l'histoire du monde et de placer le monde lui-même dans une histoire encore plus large de tout l'univers. Et avec la science moderne, on peut raconter une histoire absolument extraordinaire parce qu'on peut parler effectivement des origines de l'univers, des étoiles, des astres, de notre soleil et la façon dont une espèce aussi complexe que l'être humain a pu se développer, c'est-à-dire que nous pouvons beaucoup mieux comprendre les choses que les générations passées.
Je reviens justement sur cette place de la science dans votre travail, sur la place de la science d'une façon plus générale dans la grande histoire, dans la big history. Comment l'historien parvient-il à vulgariser des savoirs scientifiques? Comment parvient-il à utiliser, même j'allais dire, dans sa démarche, dans sa manière de penser, des savoirs issus des sciences naturelles, des sciences dont a priori il est relativement éloigné?
Cela m'est possible parce que aujourd'hui, nous disposons d'une littérature extrêmement riche, aussi bien en langue française qu'en langue anglaise. Écrite par des scientifiques qui racontent les histoires de base de la science moderne pour des êtres intelligents qui souhaitent creuser un peu la chose. Alors, moi-même, effectivement, je ne suis pas scientifique et je ne prétends pas comprendre tous les détails de la science. Par contre, ce que je peux comprendre, ce sont les idées de base, par exemple, de la cosmologie du Big Bang ou la façon dont les astres ont été créés. Donc, si je m'appuie sur toutes ces idées et que je les rassemble, alors, je produis une histoire moderne des origines de l'univers. On aboutit à une histoire qui peut être racontée dans les collèges, dans les universités et même dans les écoles primaires.
Je voudrais vous faire entendre la voix, David Christian, d'un historien français que vous connaissez bien, mort en 1985. Il s'appelle Fernand Braudel et nous rappelle sa conception de l'histoire globale notamment.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple. C'est un temps multiple qui est formé de temps très brefs, de temps plus longs, de temps très longs, et de temps, je dirais, de longue durée, et qui peut sembler immobile, qui n'est pas immobile, mais qui peut sembler immobile. Donc de vitesses différentes. Vous avez comme si le temps qui était lâché dans la vie des hommes sortait d'outres, vous connaissez les outres d'Éole, sortait d'outres différents avec des vents qui ne sont pas des vents de même force, de même puissance, de même largeur et surtout de même vitesse.
On a le sentiment qu'il y a dans ces propos de Fernand Braudel en germe déjà ce que vous avez tenté d'entreprendre avec la big history, avec la grande histoire. Je veux dire par là, tenter de synchroniser des temporalités différentes. La temporalité du monde, la temporalité géologique, la temporalité humaine et bien d'autres.
Exactement. Et Je dirais même plus, j'ai toujours été un grand admirateur de Braudel et j'ai toujours adoré ses idées. Une façon de présenter les choses consiste à dire finalement que si l'on étudie le passé à différentes échelles, alors on voit différentes choses. Et ce qu'il nous a montré, Braudel, c'est que si l'on étudie l'histoire sur l'échelle de plusieurs siècles, alors on voit des choses que l'on ne peut pas voir si on se limite à un espace, disons, de 10 ans, mais sur l'échelle de plusieurs centaines d'années, alors on voit apparaître de plus grandes structures. Et chacune de ces échelles peut ajouter quelque chose à notre connaissance, à notre compréhension du monde, le monde dans lequel nous vivons. Et c'est une idée que j'ai tirée de Braudel, mais je crois que j'ai élargi l'idée de longue durée que Braudel avait développée pour y inclure le cosmos. Mais il y a une autre idée de Braudel, et là, il a toujours dit que la science a beaucoup à offrir aux historiens, précisément. Et inversement, les historiens ont beaucoup à apporter à la science. Je suis tout à fait d'accord avec lui. À mon sens, la séparation entre la science et l'histoire ou les sciences humaines, c'est une séparation artificielle qui limite notre connaissance du monde.
Il y a peut-être, une approche, David Christian, qui se trouve marginalisée dans votre travail, par votre travail et d'une façon plus générale, par la grande histoire, par la big history. Je veux parler de la politique au sens large, les systèmes institutionnels, l'avenir et le devenir des nations. Est-ce que la politique ne vous intéresse pas, ou en tout cas vous intéresse un peu moins, ou bien vous considérez que dans la grande histoire humaine, dans la très grande histoire du monde, il faut la remettre à une place peut-être de moindre importance?
Non, la politique est immensément importante, mais on ne peut comprendre la politique, ou du moins on la comprend beaucoup mieux lorsque l'on pose des questions sur la politique à l'échelle non pas de 10 ou de 20 ans ou même de 1000 ans, mais disons sur 200 000 ans. Alors essayez de contempler la question politique sur cette échelle-là, et là, on se pose des questions sur la nature même du pouvoir, la façon dont le pouvoir est organisé dans les sociétés humaines. Et je vous donnerai un exemple à ce titre qui, à mon sens, est très éclairant. Si vous étudiez l'ensemble de l'histoire humaine sur des centaines de milliers d'années, il y a une chose qui se dégage. Les êtres humains ont vécu dans de petits groupes pendant de longues périodes, mais au cours des 10 000 dernières années, ces groupes se sont de plus en plus interconnectés les uns aux autres, à telle enseigne que on voit apparaître d'immenses groupes, les empires, les nations. Mais ce que l'on voit maintenant dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouvelles formes de groupes qui sont apparus, des groupements politiques, et ça, c'est la nouvelle phase du monde.
Vous divisez, David Christian, dans cet ouvrage qui vient de paraître en France, et intitulé « Origine, une histoire du monde du Big Bang à nos jours » aux éditions ARPA. Vous divisez l'histoire de l'univers et de notre espèce, d'ailleurs, en grands seuils, en 8 seuils plus exactement.
Il y a 8 seuils. Alors, ça n'est pas une idée scientifique, c'est plutôt un outil, disons, pédagogique. Il y a quand même une idée sous-jacente plus profonde. Si on étudie l'ensemble du passé, on remonte donc jusqu'au Big Bang. Et si l'on étudie donc l'histoire de l'univers, du système solaire, l'histoire de la Terre, de la vie sur Terre, l'histoire de notre espèce, il faut nécessairement se poser la question de savoir s'il y a un thème commun unificateur à toutes ces histoires. Et en enseignant la grande histoire, je me suis dit qu'effectivement, il y a une espèce de fil rouge. C'est dire qu'au début de l'univers, disons dans les premières secondes de son existence, cet univers était extrêmement simple. Il n'était composé que d'énergie, ni plus ni moins. Il n'y avait pas d'autre chose que cela. Et puis, sur les 13,8 milliards d'années qui ont suivi, vous avez vu apparaître des choses de plus en plus complexes, de plus en plus intéressantes. Je pense notamment aux étoiles ou à de nouveaux éléments chimiques. Là-dedans, notre univers a cette capacité absolument époustouflante de créer des choses de plus en plus complexes, des choses nouvelles. Et là, pour nous, êtres humains, c'est très intéressant parce que nous sommes nous-mêmes des choses extrêmement complexes. Mais cette histoire-là pose une autre question. Parce que les physiciens nous parlent de la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit que la tendance de l'univers n'est pas de créer des choses de plus en plus complexes, mais au contraire de les simplifier. Alors, comment est-il possible dans notre univers que des choses de plus complexes apparaissent? Et telle est la question qui sous-tend, si vous voulez, ces huit seuils. Chacun de ces huit seuils décrit un moment important dans l'histoire de l'univers, moment auquel quelque chose de nouveau s'est produit, et ces nouvelles choses, ces nouvelles apparitions ont contribué d'une façon ou d'une autre à la façon dont nous, êtres humains, vivons dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez ?
Parfaitement, et d'ailleurs j'allais même vous demander, parce qu'on a le sentiment quand on vous lit, David Christian, que le moteur premier de cette très grande histoire de l'univers et du monde, le moteur premier, c'est les flux énergétiques, la matière énergétique, l'énergie d'ailleurs, dans toutes ses formes et dans son ensemble. Expliquez-nous quel rôle jouent les flux énergétiques dans votre façon d'approcher l'histoire de notre univers.
Tel que je crois comprendre les choses, l'énergie ou les flux énergétiques, c'est la première chose qui est apparue dans l'univers. En fait, la matière n'est autre que l'énergie condensée. Mais donc, la première composante de l'univers, effectivement, ce sont les flux d'énergie. Or, ces flux d'énergie, en tout cas la plupart du temps, ont tendance à simplifier les choses ou en tout cas les planifier. Et c'est ça l'idée même de l'entropie. Cette fameuse deuxième loi de la thermodynamique. Et d'ailleurs, dans un univers très proche, effectivement, l'univers va devenir de plus en plus ennuyeux. Mais entre-temps, avant d'y arriver, ces flux d'énergie, quelquefois, peuvent bousculer un petit peu les choses et, dans certains cas, vous arrivez à une situation où les choses se trouvent verrouillées dans de nouvelles façons d'être. La grande histoire est une façon de vulgariser des concepts relativement complexe. Un astrophysicien, Charlie Lineweaver, qui m'a dit que l'entropie elle-même a besoin de flux d'énergie. Donc, d'une manière assez curieuse et paradoxale, l'entropie est la force, le moteur qui bouscule un petit peu les choses dans l'univers et qui crée ces objets, ces choses complexe. Et puis j'ajouterai une autre chose, c'est que la plupart de l'univers est d'une simplicité enfantine, c'est-à-dire que ces choses complexes que nous voyons, elles existent certes, mais dans des parties très restreintes de l'univers et encore dans des lieux extrêmement rares, dans des situations que j'appelle du boucle d'or. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un environnement extrêmement étrange dans lequel des choses extrêmement complexes peuvent apparaître.
Au vu, David Christian, de l'ampleur des connaissances que vous balayez, que vous abordez à travers la grande histoire, est-ce que votre démarche est également une réaction à l'ultra-spécialisation que l'on observe présentement en sciences sociales, dans les différents travaux de recherche? Est-ce que vous tentez aussi, par là, par ce truchement, de prendre le contre-pied de cette ultra-spécialisation?
Mais oui, tout à fait. À mon sens, et j'y crois beaucoup, l'enseignement moderne est maintenant tellement préoccupé par les détails du savoir qu'il a perdu de vue le reste du savoir. Ce que la grande histoire essaye de faire finalement, c'est d'amener les étudiants tout en haut de la montagne pour voir l'ensemble du paysage du savoir moderne. Alors évidemment, du sommet de la montagne, on ne voit pas les petits détails. Alors je ne m'attends pas à ce que mes étudiants comprennent tous les détails de la biologie, de la géologie, de l'astrophysique, mais par contre, j'attends d'eux de pouvoir avoir une vue d'ensemble. Il y a peut-être une centaine d'années, la plupart des penseurs, des philosophes, et je pense notamment justement aux philosophes du siècle des Lumières, ils estimaient tous que l'un des objets de l'enseignement devait précisément être d'arriver à, comment dire, une vision d'ensemble de tout le savoir. Et on a un peu l'impression que l'enseignement moderne a perdu de vue cet objectif. C'était le cas par le passé.
Qu'est-ce que vous répondez, David Quishen, aux critiques qui expliquent que la grande histoire, la big history, favorise bien plus la narration à la rigueur scientifique, favorise le récit, justement, face aux faits et à l'information, et beaucoup plus, dans le fond, une science sociale, j'allais dire, presque d'entrepreneur, bien plus que de scientifique rigoureux. Est-ce que vous entendez cela et comment, surtout, vous réagissez face à ces critiques ?
Écoutez, ma réaction à ce genre de critique, c'est que c'est un petit peu bête. Si on remonte justement à l'exemple de l'éducation, de l'enseignement chrétien, lorsque l'Église chrétienne enseigne le christianisme à ses élèves, elle le fait par différentes étapes. On commence par les jeunes enfants auxquels on enseigne une forme de christianisme très simple qui les aide à comprendre les choses, en tout cas du point de vue de l'Église chrétienne. Et puis, à mesure qu'ils grandissent, ils découvrent des versions un peu plus complexes de l'histoire, et puis ensuite, ils peuvent passer à des études de théologie et apprendre des choses d'une difficulté, d'une complexité invraisemblable, qui relève toujours de la théologie chrétienne. Mais en science, c'est pareil. Il faut commencer par des versions simplifiées, mais ça ne veut pas dire que ces versions simplifiées n'aient pas de rigueur scientifique. Alors, on ne peut pas tous être des spécialistes de la physique quantique, mais par contre, on peut tous essayer de comprendre, disons, le béaba. Enfin, dire que la vulgarisation de la science consiste à la dégrader, c'est une attitude extrêmement bête. Pourquoi ? Parce que ça consiste à dire que la science est réservée aux scientifiques. C'est complètement faux.
Je voudrais vous faire entendre, David Quishen, la voix d'un homme que vous connaissez bien, Yuval Noah Harari. Il s'exprimait sur cette même chaîne, sur France Culture, en 2017.
Well, humans have been extremely successful when it comes to acquiring power.
Ont eu une belle réussite dans l'acquisition du pouvoir, mais ils n'ont pas de réussite en ce qui concerne le bonheur. Au cours des derniers millénaires, nous avons accumulé des quantités énormes de pouvoir, mais nous ne savons pas comment utiliser ce pouvoir pour que le monde devienne un endroit meilleur et pour que nous soyons plus heureux. C'est largement dû. En fait, notre bonheur dépend de nos attentes, de nos espoirs. Et alors que notre condition s'améliore, nous sommes toujours dissatisfaits, insatisfaits comme nous l'étions précédemment.
En résonance avec ce que vient de dire Yuval Noah Harari, David Quishen, on a le sentiment également que la big history, la grande histoire, s'intéresse à l'avenir de l'homme, à l'avenir des êtres humains, à l'avenir d'ailleurs plus général du monde. Pourquoi, comment d'ailleurs l'histoire peut-elle s'intéresser à l'avenir ?
Alors, si vous me permettez de raconter une petite anecdote par rapport à cela, lorsque j'ai commencé à enseigner la grande histoire, il faut reconnaître que c'était un petit peu brouillon, nous ne savions pas exactement où nous allions, mais peu à peu les choses se sont précisées et l'histoire s'est précisée elle aussi, à mesure que nous avons commencé à l'enseigner. Et puis, une fois, un étudiant est venu me voir et je venais de mettre un terme à la dernière conférence de ce cours et cet étudiant m'a dit le cours est formidable, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça au temps présent. Il faut se tourner vers l'avenir. Et je me suis dit, cet étudiant a raison. Pourquoi étudier l'histoire si l'on n'est pas en mesure, à partir de notre connaissance du passé, d'entrevoir un peu le futur? Et d'ailleurs, les biologistes vous diront, c'est la raison pour laquelle nous avons de la mémoire pour pouvoir justement gérer l'avenir. Et il y a quelques années, finalement, j'ai écrit un livre justement sur le futur, un peu à la manière justement de Harari.
Mais je reviens, David Quishen, sur ce sujet important, fondamental, même de la rigueur scientifique. Comment peut-on être aussi rigoureux sur ce qui s'est passé avant nous, sur ce qui a eu lieu, et être, j'allais dire, fin dans l'analyse lorsqu'il s'agit de deviner ce qui se passera à l'avenir, de deviner ce qui se passera peut-être après cette histoire que vous décrivez? Comment avoir la même rigueur? D'ailleurs, le dernier chapitre du livre que vous faites paraître en français, Origine, une histoire du monde du Big Bang à nos jours, s'intéresse s'intéresse justement à l'avenir. Comment avoir cette rigueur similaire entre ce dernier chapitre et ce qu'il précède ?
Vous parlez de rigueur, d'accord, mais il y a énormément de rigueur dans notre tentative de comprendre le futur. Hein, par exemple, je pense aux prévisions météorologiques. C'est une science extrêmement rigoureuse, mais en même temps, c'est le cas de le dire, tous les météorologistes vous diront, on ne peut pas vous dire exactement quel temps il fera demain. Ce que je peux vous donner, ce sont des réponses probabilistes. Et les physiciens de physique quantique vous diront la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il faut penser à l'avenir, c'est essentiel, même si nous savons que nous ne pourrons jamais prédire exactement l'avenir.
Merci beaucoup, David Christian, de cette discussion, de ces précisions. Également, je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître en France aux éditions ARPA, Origine au pluriel, une histoire du monde du Big Bang. À nos jours, merci encore et merci à Robert Wolfenstein pour l'interprétation de cet échange.